Bonjour à toutes et à tous sur le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 23 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Au Mali, plusieurs partis politiques réclament un calendrier électoral pour un retour des civils au pouvoir. La Cour pénale internationale a annoncé avoir délivré un mandat d'arrêt contre le chef de la police judiciaire libyenne. Près de 10 millions de doses de vaccins antipaludiques ont été livrées en Afrique au cours de la première année de vaccination de routine sur le continent. L'Union africaine appelle le président américain Donald Trump à reconsidérer sa décision de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans l'autre partie magazine, des migrants vénézuéliens et honduriens à la frontière mexicaine voient leur rêve anéanti avec l'arrivée de Donald Trump.
Vraiment, la joie que nous avons eue s'arrête ici. On ne sait pas ce qu'on va faire. On est dans l'incertitude.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, plusieurs partis politiques demandent un calendrier électoral pour un retour des civils au pouvoir. Ils appellent le pouvoir à rendre public ce chronogramme d'ici le 31 mars. Les précisions avec Michel Joseph.
Les signataires d'une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, dont certains des plus importants partis maliens, notent que la période supposée transitoire après le putsch d'août 2020 dure depuis bientôt 5 ans, soit autant qu'un mandat électoral. Il souligne que le général Assimi Goïta, à la tête du pays, s'est abstenu, dans son discours de fin d'année, de toute référence à l'organisation des élections. Le peuple est délibérément maintenu dans le flou, dit la dizaine de partis et mouvements. Les militaires ont décrété en 2022 qu'ils céderaient le pouvoir aux civils à l'issue d'une période de transition s'achevant le 26 mars 2024 après une présidentielle prévue en février de la même année. Les militaires ont depuis annoncé le report de la présidentielle à une date toujours inconnue. Ces partis appellent les autorités à fixer un chronogramme détaillé et précis vers les élections et cela avant la fin du premier trimestre. Ils demandent aux militaires de garantir le respect des libertés démocratiques, de l'état de droit, la libération des prisonniers pour délits d'opinion, le retour des exilés politiques et à mettre fin aux arrestations arbitraires et disparitions forcées, selon la déclaration.
Le principal opposant au Mozambique, Venancio Mondlane, a exclu mercredi, après des mois de violence post-électorale, de rejoindre le nouveau gouvernement au cours d'un entretien à l'AFP. Nous n'avons absolument rien à attendre d'eux en termes de feuille de route pour la réconciliation et la paix au Mozambique, a jugé Venancio Mondlane. Depuis le début de la contestation des résultats électoraux d'octobre, plus de 300 manifestants sont morts, principalement tués par balles, d'après une ONG locale. Au Soudan du Sud, quelques 600 détenus arrêtés la semaine dernière à Juba pour des pillages et des violences anti-soudanais se sont évadés, a indiqué mercredi la police. 410 d'entre eux ont été rattrapés et les forces de l'ordre recherchent toujours les 190 prisonniers restants. Ces soudanais ont été tués après des manifestations organisées suite à des informations faisant état du meurtre de 29 citoyens sud-soudanais au Soudan voisin, ont dégénéré en pillages et en violences contre ses ressortissants à travers le pays jeudi et vendredi dernier. La Cour pénale internationale a annoncé hier, mercredi, qu'elle a délivré un mandat d'arrêt contre le chef de la police judiciaire libyenne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le point avec Eric Manilakis.
Le 18 janvier 2025, la chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a délivré à la majorité un mandat visant Osama al-Masri Najim dans le cadre de la situation en Libye, a déclaré la Cour dans un communiqué. Le suspect a été arrêté par les autorités italiennes dans le nord de Turin dimanche, mais il aurait été libéré mardi sans avis préalable ni consultation de la Cour, a déploré le tribunal de La Haye dans un communiqué. La Cour cherche à obtenir et n'a pas encore obtenu de vérification de la part des autorités sur les mesures qui auraient été prises, a ajouté la CPI. Monsieur Najim, présumé responsable du centre de détention de Mitiga à Tripoli dans le nord-ouest, est recherché pour des meurtres, viols et tortures commis depuis le 15 février 2015. Les crimes présumés ont été commis contre des détenus en raison de leur religion ou alors qu'ils étaient soupçonnés d'un comportement immoral ou de soutenir ou être affiliés à des groupes armés, a déclaré la CPI.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby et un de ses frères généraux se sont publiquement écharpés sur les réseaux sociaux, symbole des fortes dissensions au sein même du clan Déby dans un contexte politique et sécuritaire tendu au Tchad. « Tu as échoué, je t'appelle purement et simplement à démissionner », a exhorté mardi dans une lettre ouverte le général Adam Idriss Déby Itno. Des élucubrations éhontées, fruit d'une petite lutte personnelle animée de haine, d'envie et de jalousie, a répliqué le président Mahamat Idriss Déby dans une réponse à son frère via un communiqué publié mercredi par le média tchadien MRTV. Toujours au Tchad, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles après plusieurs cas de viol présumés qui ont fait scandale, dont celui d'une lycéenne par un policier dans un commissariat. L'ordonnance publiée mardi par la présidence appelle notamment la justice à élargir les catégories de preuves à charge et prendre en compte les témoignages oraux des victimes. Elle souligne que le témoignage d'une victime à lui seul peut soutenir une conviction intime en l'absence d'autres éléments à charge. Près de 10 millions de doses de vaccins antipaludiques ont été livrées à l'Afrique au cours de la première année de vaccination de routine sur le continent, selon l'Alliance Gavi pour les vaccins. L'Alliance prévoit d'étendre son action vers d'autres pays. Alexandrine Hollognon.
Dans une phase pilote de 2019 à 2023, plus de 2 millions d'enfants ont reçu le vaccin RTS,S au Ghana, au Kenya et au Malawi. Le projet vise à administrer 4 doses de vaccin à chaque enfant, ce qui, selon Gavi, souligne qu'il cherche à atteindre systématiquement les personnes les plus à risque dans chaque pays. À la suite de ce projet pilote, la vaccination antipaludique de routine a été mise en place dans ces 3 pays et dans 14 autres, en commençant par le Cameroun en janvier 2024. Le projet pilote a entraîné une baisse de 13% de la mortalité, a déclaré l'OMS qui recommande désormais le vaccin RTS,S aux côtés du vaccin R21 matrice M pour la vaccination contre le paludisme. Gavi a déclaré que plus de 9,8 millions de doses avaient été administrées depuis lors, estimant que 5 millions d'enfants avaient reçu un certain degré de protection. L'Alliance prévoit désormais d'étendre son action à 8 autres pays africains cette année, ce qui devrait permettre de protéger 13 millions d'enfants supplémentaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Union africaine s'est dite consternée par la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Elle dit espérer, dans un communiqué publié mercredi, que le nouveau locataire de la Maison-Blanche reconsidérera sa décision. Mouamadou Oumfa.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été consterné d'apprendre l'annonce du gouvernement américain de se retirer de l'OMS, selon le communiqué. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde dépend de l'OMS pour s'acquitter de son mandat visant à assurer la sécurité de la santé publique mondiale en tant que bien commun partagé, a également affirmé Moussa Faki Mahamat, qui espère que le gouvernement américain reconsidérera sa décision de se retirer de cette organisation mondiale clé dont il est membre fondateur. En Afrique, les États-Unis ont été l'un des premiers et forts partisans de la création de l'Africa CDC, l'agence technique de l'Union africaine pour les urgences de santé publique, qui travaille avec l'OMS et les membres mondiaux de l'OMS pour détecter, préparer, répondre et se remettre des pandémies, a notamment mis en garde l'Union africaine. Le décret signé par le président américain, qu'il justifie par l'écart des contributions financières américaines et chinoises, a fait réagir à travers le monde, l'Union européenne se disant inquiète, la Chine affirmant que le rôle de l'OMS doit être renforcé, pas affaibli. Les États-Unis, qui avaient déjà entamé les démarches pour quitter l'OMS lors du premier mandat de M. Trump en 2020, sont le principal donateur et partenaire de cette organisation onusienne basée à Genève.
Le président Donald Trump va faire une intervention en visioconférence aujourd'hui jeudi à Davos. La séquence est prévue pour durer 45 minutes et inclut une session de questions-réponses avec deux grands patrons dont la liste était toujours en cours de finalisation mercredi soir. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibault.
Le tourisme a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie en 2024, d'après les données du baromètre du tourisme mondial établi par ONU Tourisme. Avec 74 millions de touristes, l'Afrique a reçu 7% d'arrivées de plus qu'en 2019 et 12% de plus qu'en 2023. Parmi les sous-régions, l'Afrique du Nord tire son épingle du jeu avec plus 22% d'arrivées internationales de plus qu'avant la pandémie. La Côte d'Ivoire a connu une deuxième année de baisse consécutive pour ses exportations d'ananas. En cause, selon la FAO, les conditions météorologiques qui ont été très défavorables, avec notamment très peu de pluie au début de la saison de culture. Après la banane et la mangue, l'ananas est le troisième fruit le plus exporté en Côte d'Ivoire. 5 semaines après le passage dévastateur du cyclone Chido, le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de l'archipel français de Mayotte dans l'océan Indien a été adopté hier par les députés français à la quasi-unanimité, malgré les critiques de nombreux élus, le jugeant insuffisant. Ce département le plus pauvre de France souffre depuis des années de problèmes liés à l'immigration, la sécurité, l'éducation et le développement économique. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Pour la fenêtre sportive de ce jeudi, nous parlons de basketball avec ces deux rencontres de la NBA entre San Antonio et Indiana, délocalisées à Paris ce soir et samedi.
Oui, les Spurs jouent contre les Pacers. Avant ces matchs, Victor Wembanyama vit déjà un moment incroyable, lui qui espère rendre au public français ce qu'il lui a donné cette semaine. Je vous invite à suivre ce point. 6 mois après les Jeux Olympiques où il a décroché l'argent avec les Bleus, Victor Wembanyama est de retour en France. Il disputera à Bercy avec les Spurs 2 rencontres de saison régulière demain jeudi et samedi contre les Indiana Pacers. Arrivé avec son club lundi, il a pris part à un premier entraînement à Nanterre où il a été formé et a débuté en pro à 15 ans.
Pour une citation, c'était un peu surréaliste de voir voilà, mes coéquipiers dans cette salle où j'ai passé tellement de temps. Ouais, c'est un peu comme deux univers qui se rencontrent et qui pour l'instant ça marche bien, mais ça fait vraiment extrêmement plaisir. Il y a de l'émotion.
Wemby dit comprendre l'enthousiasme du public français qu'il voit comme le premier responsable de son bon classement provisoire au vote des fans en vue d'une sélection pour le prochain All-Star Game. Pour ne pas se laisser trop distraire par ce contexte trop enthousiaste, le géant de 2m24 dit avoir sa petite idée.
Bien, c'est une intention à avoir, c'est sûr, mais je vais essayer de garder ma routine d'avant-match, pareil qu'elle est dans n'importe quelle ville des États-Unis quand on est en déplacement. J'ai rien de prévu pour les jours de match parce que, comme je l'ai dit, c'est ma priorité. Je verrai personne les jours de match comme d'habitude.
En marge de ses rencontres NBA, le Français de 21 a été accueilli en vedette dans sa ville de naissance, le Chesney, dans les Yvelines, à environ 20 km de Paris, pour inaugurer 2 terrains de basket. À Paris souriant, Victor Wembanyama s'est prêté au jeu des autographes avec les enfants venus l'acclamer.
Le plus important, c'est vous, c'est les enfants, les élèves qui avaient motivé ce projet, parce que ce terrain est pour vous, parce que c'était un rêve à moi d'avoir un terrain de qualité en libre service pour pouvoir jouer au basket en grandissant. Donc c'est vraiment vous qui avez motivé ce projet, donc je vous remercie de tout le cœur.
Robert Canterbury Bafford, PDG des Spurs.
L'important, c'est que c'est là que Victor voulait être. Il voulait partager notre équipe et notre programme avec la famille et les amis avec lesquels il a grandi. Il était donc extrêmement important pour lui de commencer à faire profiter la communauté de son amour pour le basketball.
Les Spurs n'ont pas indiqué le montant qu'ils ont dépensé pour le projet, mais les autorités locales parlent d'une part significative du budget estimé à 500 000 $. Avant les 2 matchs, San Antonio de Victor Wembanyama a concédé un 3e revers d'affilée face à Miami dimanche dernier. Les Texans devront donc rebondir à Paris devant les Pacers d'Indiana pour espérer accrocher les play-in, barrage d'accession aux play-offs.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounet-Zero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la RDC, de nombreuses personnes fuient vers Goma alors que le M23 s'est emparé lundi matin de Minova, 65 000 habitants, plateforme commerciale sur les rives du lac Kivu. Nathalie Barge relate des témoignages de personnes déplacées à Nzulo, en banlieue de Goma.
Alliance Toumeni fait partie des déplacés qui ont parcouru près de 50 km pour atteindre Nzulo, à 5 km au nord-ouest de la capitale du Nord Kivu, quasiment encerclée par les combats.
Je viens de fuir à cause de la présence du M23. Hier, nous l'avons vu venir de Rukara. Ils sont descendus à Bitonga jusqu'à Kashanda et ont pris Minova. C'est pourquoi j'ai fui.
Depuis lundi matin, des bateaux transportent de nombreuses personnes qui fuient Minova pour tenter de trouver refuge à Goma, sur l'autre rive du lac Kivu. Cheria Sebunyenzi, déplacée de guerre.
Chez moi, c'est à Karuba. Le M23 nous a poussés à fuir jusqu'à Minova. Nous commencions déjà à nous installer là-bas, dans le camp de déplacés. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore obligé de fuir.
Selon Ishara Kaziwa, chargé de la protection du camp de Lushagala, les déplacés arrivent en masse. Dans l'est du pays, plus de 230 000 personnes ont dû quitter leur foyer depuis début janvier à cause des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise. Salama Bizimana, déplacée de guerre.
Depuis hier, lorsque nous avons fui, nous avons constaté que nous ne pourrions pas atteindre Kitembo. Nous avons passé la nuit à Nishibwe, il y avait des crépitements de balles et il y a eu des blessés. Ce matin, nous avons repris le chemin vers Kitembo. De là, nous avons pris une pirogue pour atteindre Nzulo où nous sommes maintenant.
Elia Mwendakwabo affirme que son village accueille tout le monde, mais que la présence des déplacés crée une psychose au sein de la population.
Nzulo était comme un carrefour, mais depuis l'arrivée des déplacés, les choses ont changé. Nous, habitants de Nzulo, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne cultivons pas et nous vivons grâce au lac, mais avec la prise de Minova, il sera probablement fermé, ce qui nous rend très inquiets.
Selon le CICR, en charge de la chirurgie de guerre à l'hôpital de Goma, plus de 200 blessés, dont des enfants, ont été accueillis ces trois dernières semaines. Les affrontements se déroulent autour de la capitale du Nord Kivu, qui était tombée brièvement aux mains du M23 en 2012.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
En pleurs et sous le choc, des migrants vénézuéliens et honduriens voient leurs rêves anéantis avec l'arrivée de Donald Trump. À peine investi, le nouveau président a décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique et a ordonné à l'armée américaine d'en assurer la surveillance. Les migrants qui attendent au Mexique leur rendez-vous pour demander l'asile via l'application du gouvernement américain, connue sous le nom de CBP One, ont vu leur rendez-vous annulé. Alexandrie Holognon.
Alors qu'ils actualisaient l'application, une alerte est apparue. Les rendez-vous existants programmés par l'intermédiaire de CBP One ne sont plus valables. Lydia Montenegro a fui la violence et la pauvreté au Venezuela. Elle a survécu à un enlèvement alors qu'elle se dirigeait vers le nord du Mexique et a atteint la ville frontalière de Tijuana dimanche 19 janvier pour un rendez-vous avec un demandeur d'asile américain qui devait enfin lui permettre de retrouver son fils qui vit à New York. Ce rendez-vous est désormais annulé.
J'ai attendu 4 mois à Tapachula. Nous sommes restés dans l'incertitude. Nous ne savons pas quoi faire. Vraiment, la joie que nous avons eue s'arrête ici. On ne sait pas ce qu'on va faire. On est dans l'incertitude.
Madame Montenegro fait partie des milliers de migrants qui ont vu leur espoir d'entrer légalement aux États-Unis s'envoler soudainement. Autour d'elle, d'autres migrants pleuraient en essayant à plusieurs reprises de charger l'application, le désespoir grandissant. Certains ont reçu des courriels annulant leur rendez-vous, d'autres ont reçu l'alerte et certains n'ont tout simplement pas pu ouvrir l'application. Des scènes similaires ont eu lieu dans plusieurs villes frontalières mexicaines. Denia Alvaro est une migrante hondurienne.
Je pense que de nombreuses personnes ont attendu longtemps pour le rendez-vous CBT1 et je pense que c'est une erreur d'avoir annulé le rendez-vous. Je comprends qu'ils allaient annuler l'application, mais je pense que les rendez-vous n'auraient pas dû être annulés. Il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment besoin et qui ont voyagé à cause de problèmes délicats. La plupart d'entre nous ont dû faire face à des situations difficiles lorsqu'ils ont quitté le pays.
Les autorités frontalières américaines ont confirmé qu'elles avaient fermé l'application et annulé les rendez-vous existants. Au 7 janvier 2025, quelques 280 000 personnes s'étaient connectées quotidiennement à l'application pour obtenir un rendez-vous. Selon une estimation du gouvernement américain, environ 11 millions d'immigrés se trouvaient illégalement aux États-Unis ou bénéficiaient d'un statut temporaire au début de l'année 2022, un chiffre que certains analystes situent aujourd'hui entre 13 et 14 millions.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Pour son premier jour de travail, le secrétaire d'État Marco Rubio a rencontré son personnel et a exposé ses priorités en matière de politique étrangère. Il a également rencontré des alliés de la région Indo-Pacifique qui cherchent à contrer les ambitions militaires et économiques de la Chine. Un reportage de Veronica Balderas Iglesias, récit d'Ilidico.
Lors de son premier jour en tant que secrétaire d'État américain, l'ancien sénateur républicain Marco Rubio a déclaré à ses nouveaux employés que leur ministère allait promouvoir la paix dans le monde.
Sans la paix, il est difficile d'être une nation forte, une nation prospère et une nation qui se porte mieux.
Mais éviter le conflit sera une décision stratégique.
Jamais au détriment de notre sécurité nationale, jamais au détriment de notre intérêt national, jamais au détriment de nos valeurs fondamentales en tant que nation. Et en tant que peuple.
Marco Rubio a également rencontré mardi les ministres des Affaires étrangères de l'Inde, de l'Australie et du Japon. Ces quatre pays forment le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, ou Quad, un bloc qui vise à contrer les ambitions économiques et militaires de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Le rassemblement de mardi a apaisé certaines inquiétudes concernant l'approche America First du président Donald Trump. Yun Sun est la directrice du programme Chine au Stimson Center.
C'est un signal clair que les États-Unis n'abandonnent pas les alliés partenaires de la coalition régionale en ce qui concerne la manière de contrer la montée en puissance de la Chine.
Pékin dénonce la quadrilatérale comme un concept de la guerre froide. À nouveau, l'analyste Yun Sun.
Chaque fois que les États-Unis s'alignent sur leurs alliés ou partenaires, les Chinois se sentent isolés et menacés et ils accusent les États-Unis d'avoir la mentalité de la guerre froide.
L'analyste a souligné que la modernisation et l'expansion de l'arsenal militaire et nucléaire de la Chine ne feront que continuer à inciter les pays de cette région à renforcer leurs propres armées et à rechercher un alignement plus étroit sur les États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Des millions d'utilisateurs américains de TikTok se tournent vers le nouveau président Donald Trump qui a donné 75 jours à la société mère chinoise de l'application ByteDance pour conclure un accord avec un acheteur américain. Le point avec Matt Diebel, récit Lionel Gahima.
L'un des premiers actes du président Donald Trump après sa prestation de serment lundi a été la signature d'un décret accordant aux propriétaires chinois de l'application de médias sociaux TikTok un délai supplémentaire de 75 jours pour trouver un acheteur américain, faute de quoi il serait interdit dans le pays. Le président Donald Trump.
Je pense que j'ai une affection pour TikTok que je n'avais pas à l'origine, mais je suis allé sur TikTok et j'ai gagné les jeunes avec une marge de 36%.
Il s'agit du dernier rebondissement pour ByteDance, le propriétaire de la plateforme basée à Pékin, et ses quelques 170 millions d'utilisateurs américains. Le site a brièvement fermé au cours du week-end après que la Cour suprême des États-Unis a confirmé la législation exigeant que la filiale américaine de TikTok devienne une société américaine pour éviter une interdiction pour des raisons de sécurité nationale. Mais les choses ont changé après que M. Trump a commencé à s'exprimer en faveur d'un sursis à TikTok. Le PDG de TikTok, Xu Chew, a assisté à l'investiture de M. Trump, l'a remercié dans une vidéo publiée vendredi.
Nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir le soutien d'un président qui comprend vraiment notre plateforme. Un président qui a utilisé TikTok pour exprimer ses propres pensées et perspectives.
Mais certains experts juridiques affirment que la décision de Trump pourrait ne pas protéger les entreprises comme Oracle qui continuent d'héberger TikTok parce que la loi promulguée par le Congrès est toujours en vigueur. Alan Rosenstein est professeur à la faculté de droit de l'Université du Minnesota.
Il est tout à fait possible, je soupçonne les actionnaires d'Oracle, certains avocats spécialisés dans les valeurs mobilières, d'y penser en ce moment même. Il est tout à fait possible qu'au cours des dernières 48 heures, Oracle se soit exposé à une responsabilité potentielle de centaines de milliards de dollars et que Trump ne puisse rien faire pour soustraire l'entreprise de cette responsabilité.
Lors de son dernier mandat, Trump avait cherché à interdire TikTok en raison d'allégations selon lesquelles le service pourrait partager des données d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois. En réponse aux questions des journalistes, le président a proposé une nouvelle solution, que le gouvernement américain soit copropriétaire de TikTok.
Je pourrais imaginer un accord où les États-Unis obtiendraient 50% de TikTok, le contrôleraient un peu, ou beaucoup, cela dépendrait d'eux.
Bien que le Congrès ait initialement donné à TikTok 270 jours pour trouver un acheteur américain, il n'y a eu aucune indication publique d'une vente en cours. Adam Kovacovic est PDG de la Chambre du Progrès, une association de l'industrie technologique.
Le fait qu'ils ne l'aient pas autorisé, je pense que c'est un signe que le gouvernement chinois a de réels intérêts de sécurité nationale dans le maintien de l'application telle qu'elle est, ce qui devrait vraiment nous préoccuper et souligne vraiment l'élan initial qui a poussé le Congrès à adopter ce projet de loi en premier lieu.
L'horloge de TikTok a été remise à zéro pour 75 jours supplémentaires, mais malgré le soutien de Trump, l'avenir de l'entreprise est encore très incertain.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria.
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.